cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 14 octobre 1991.
Avant d'entrer en métaphysique, je crois qu'il est bon de se poser la question de la nécessité de la métaphysique aujourd'hui. Dans des quantités de lieux où l'on devrait enseigner la métaphysique, on ne l'enseigne plus. C'est un fait. Même à l'université de Fribourg, où c'était une tradition, je crois que je serai le dernier à l'avoir enseigné. On considère que c'est inutile. Dans les séminaires, on regarde beaucoup les derniers philosophes, c'est-à-dire les idéologies athées. Je comprends très bien, c'est très important. Mais on n'enseigne plus la métaphysique. Je me souviens, il y a quelques années, moment, peut-être 20 ans. Je prêchais à Prouille. Il y avait M. Coffi qui était là. Et M. Coffi m'a dit « Qu'est-ce que vous enseignez à Fribourg ?» Alors j'ai dit la métaphysique. Alors il me dit « Ah, c'est bien. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour enseigner la métaphysique. » Autrement dit, on a l'impression que c'est un vieux meuble très enfoui qu'on doit retrouver presque en faisant de l'archéologie. Pour beaucoup, c'est comme ça. On a enseigné la métaphysique. Saint Thomas, oui. Pour comprendre Saint Thomas, il faut la métaphysique. Autrement, on se heurte tout le temps. Alors, je crois que c'est quand même utile pour nous de saisir pourquoi la métaphysique reste le cours principal. Point de vue quantité, puisque normalement, 2 heures par semaine, pendant 3 ans, personne ne fait ça. On exagère. C'est monstrueux, c'est déséquilibré. Première raison, alors, une raison extrinsèque à la métaphysique, mais pour nous intrinsèque, puisque nous sommes chrétiens, catholiques, il est nécessaire pour nous de faire de la métaphysique. En tant que catholique et en tant qu'apôtre, l'Église nous le demande. Pas directement. L'Église ne donne pas un précepte. Tu feras de la métaphysique, autrement tu feras du purgatoire. L'Église ne dit pas ça. Mais l'Église nous demande d'être capable de répondre à notre monde d'aujourd'hui. Vatican II réclame l'ouverture au monde. Ça, c'est un fait. L'ouverture au monde, c'est l'ouverture pour nous en Europe, en Amérique. L'ouverture au monde, c'est de permettre un vrai dialogue avec les hommes qui cherchent la vérité. C'est d'éveiller chez les hommes l'amour de la vérité. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est notre devoir primordial. n'avons pas une philosophie qui aboutit à la métaphysique. Je dis bien qui aboutit à la métaphysique, qui s'achève dans la métaphysique, ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous ne pourrons pas satisfaire à cet appel d'une recherche de vérité. Pour comprendre ce qu'est l'intelligence humaine, l'âme spirituelle et le mystère de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Sans métaphysique, vous ne pourrez jamais, en dehors de la foi, donc uniquement au point de vue humain, pouvoir montrer que les traditions religieuses, quand elles parlent de Dieu, du Très-Haut, Allah, que ces traditions religieuses sont au-delà d'un langage symbolique, d'un langage mythique, que ces traditions religieuses disent quelque chose de vrai. Parce que si ces traditions religieuses restent au niveau d'un langage symbolique et mythique, elles ont été intéressantes pour un temps. Théogonie, Hésiode, c'était bien pour les Grecs. C'était bien pour les chrétiens. C'était bien. Au musée de Moscou, c'est ce qu'on montrait. Le christianisme a préparé le marxisme. Et quand le marxisme est là, évidemment, on n'a plus besoin du christianisme. Il faut pouvoir justifier sa foi. Saint Paul nous le dit. Et dans un monde qui se laïcise, c'est encore beaucoup plus important. Quand on vivait en chrétienté, c'était important, ça restait quelque chose de très juste. Mais saint Paul, lui, parle dans un monde de païens. Et nous, c'est pire que le paganisme. Parce que une culture qui a été chrétienne et qui refuse le christianisme dans sa culture et dans une attitude d'opposition plus violente qu'un païen. Un païen n'a pas refusé. Donc, il est disponible. Et c'est vrai, tous ceux qui sont en Afrique le sentent bien. L'animisme est une certaine religion. Ils cherchent. Tandis que nous avons affaire en Europe à une culture qui est imprégnée des idéologies athées. La laïcité d'aujourd'hui est imprégnée des idéologies athées. Et donc on a affaire à une culture qui explicitement a refusé l'existence de Dieu. Et refuse l'existence de Dieu. Donc il faut être doublement armé. Pas simplement dire, oui, dans l'homme, une attitude religieuse, un appel vers le point de vue religieux, c'est plus suffisant. Il faut qu'on puisse montrer les erreurs, les contradictions qui existent dans ces idéologies athées. Et pour pouvoir faire ça, il n'y a qu'une seule manière. Il n'y en a pas 36, point de vue de l'intelligence humaine. C'est la métaphysique. Parce qu'il faut répondre positivement. Détruire le marxisme. D'abord, c'est très très difficile de le détruire dans quelqu'un qui a été très imprégné marxiste. Ça donne des plis. Il faut découvrir la vérité et pouvoir la montrer. J'allais dire, dans une certaine splendeur pour séduire dans le bon sens, pour montrer la grandeur de cette vérité. seulement bégayer, mais vous êtes peut-être comme ça. On m'a dit ça. Dans un cours, j'ai entendu ça. Il y a des gens très intelligents qui le disent. C'est pas suffisant. Tandis, ce que disent les savants d'aujourd'hui, alors oui, il faut à tout prix un premier. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui ait pensé notre univers. C'est pas suffisant. Parce que c'est une gnose. La gnose de Princeton. On le dit du reste. Or, très facilement, beaucoup chrétiens trouvaient ça merveilleux. C'est une apologétique. Les apologétiques ne satisfont plus les intelligences profondes. Et je crois que très vite, le livre de Guiton sera rejeté. Il y a un premier élan d'admiration, de ferveur. Mais très vite, il sera rejeté. Lisez la critique de Jacques Vautier dans Famille chrétienne. Il y a déjà, je crois, quand il a paru, quoi. Parce que les savants seront de fait en face de ça. En disant, mais non, si c'est ça les chrétiens, mais ils vivent d'un nouveau mythe. Vous voyez, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une urgence très particulière à reprendre sérieusement le problème métaphysique. Ce n'est pas suffisant de rester dans une sorte d'apologétique, d'être heureux que beaucoup de savants montrent les limites de leur science et disent, ben oui, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'on puisse le dire. C'est-à-dire ça, c'est reconnaître qu'il doit y avoir un inconnu premier. On ne dit pas c'est qui. On n'en parle pas avec précision pour une intelligence qui cherche la vérité. Je crois ça très important aujourd'hui. On en a besoin. Parce que partout, il y a un appel. Ce que Heidegger dit reste vrai. La philosophie européenne, la philosophie américaine, touche un fond. J'allais dire, sérieux au sens profond, ça reste logique. Il y a les apparences d'une argumentation, c'est ça la logique. Il y a les apparences d'une argumentation, mais il n'y a pas une pensée profonde qui, elle, déblaye le terrain et montre la voie. Et montre que l'intelligence humaine est faite pour découvrir une vérité première. Une vérité qui est la vérité. Qui est une personne. Il faut, là, chacun d'entre nous, du reste, avec les expériences que nous avons, du contexte historique et du contexte humain que nous avons connu, tout le temps. Comprendre qu'il y a un appel et que nous n'avons pas le droit de tourner le dos en disant tant pis. Vous voyez, c'est le cri du petit hagard dans le désert. Il a soif. Et sa mère, fatiguée d'entendre le cri, s'éloigne. Et c'est Dieu qui dit, regarde, il y a une source cachée. Et la source cachée, c'est premièrement pour nous cette philosophie qui aboutit à la métaphysique. vois partout ça, actuellement. Ça m'a encore frappé à la session à Rimont sur la théologie. Assister là quelqu'un qui s'est présenté au point de départ, quand vous avez demandé à Rimont si vous pouvez venir, on avait dit oui. Quelqu'un qui, c'est vrai, il va être à la retraite, il a fait toute sa carrière dans la diplomatie, mais il a toujours cherché la vérité. Il aime saint Thomas, il le connaît un peu. Il aime saint Thomas. Il m'a dit, j'ai cherché. Alors il m'a cité tous les lieux qu'il avait vus. Il n'a jamais trouvé un lieu où l'on cherche vraiment la vérité. Alors il m'a dit à la fin de la session, sa joie, c'est-à-dire au moins ici, on voit tous ces jeunes qui cherchent la vérité et qui en ont le désir. Et si on veut, on voit qu'on peut découvrir quelque chose d'important pour notre monde. Et il m'a dit, si vous voulez bien, maintenant, dans 6 mois, je serai à la retraite, au point de vue diplomatique. Est-ce que je peux m'accrocher à l'église Saint-Jean, considéré comme l'un des vôtres, pour me demander ce que je veux. Il m'a dit tout ce qu'il avait fait au point de vue des postes nombreux, intéressants. Et ce qu'il veut avant tout, c'est se former. Au point de vue philosophique. Mais c'est tout le temps comme ça. Hein. Je crois que c'est très très important, oui, pour nous. Au dernier chapitre, on a décidé que chaque prieuré aurait une antenne Saint-Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayez partout où il y a des pères, des frères de Saint-Jean, dans la ville la plus proche, ou dans la ville où on se trouve, pouvoir faire un cours de philosophie pour le monde d'aujourd'hui. Je crois ça nécessaire. Parce que les jeunes crient ça. Ils ont soif de trouver une vraie philosophie. Oui. Donc je dirais, la nécessité pour nous de la philosophie première aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus. Ça ne se vend plus sur le marché. Ça n'existe plus. Alors on est très original en faisant. Et en même temps, on est dans la grande tradition chrétienne. Le Saint-Père nous le demande explicitement. Ce que je vous ai dit les dernières fois que je l'ai vu, il m'a dit, avec toujours le même accent, et la même force, où enseigne-t-on une vraie métaphysique? Donc, première exigence en tant que chrétien, répondre aux hommes d'aujourd'hui. Pourquoi la métaphysique? Parce que nous verrons que la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie, dans ce qu'elle a d'ultime philosophie première, peut seule découvrir l'existence de l'être premier. L'Église l'affirme, Vatican I, que l'intelligence humaine doit par elle-même pouvoir découvrir l'existence de Dieu. Tous les pères de l'Église, sauf un, tous, tous les grands théologiens, jusqu'à Luther, quand on dialogue avec des luthériens, le point le plus délicat, c'est pour ça qu'on va demander à Sainte Brigitte de déclarer le luthérien, le point le plus délicat. seule la foi peut affirmer l'existence d'un être premier. Seule la foi. Alors, c'est quand même très impressionnant, cela. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Et alors, vous arriverez à balbutier des choses qui n'auront ni queue ni tête. Et en faisant ça, vous manquez à votre devoir. Parce qu'on peut tous y arriver. Vous me direz, moi, je ne suis pas spéculatif. Mais non, Vatican I parle à l'homme chrétien. Il parle à l'homme croyant. Là, c'est trop facile de dire « Oh, je n'ai pas la tête philosophique, moi. » il y a beaucoup de paresse derrière tout ça. Beaucoup. On a son rythme. Mais on est tous des hommes. On a tous une intelligence. Et la métaphysique est chose naturelle. C'est l'intelligence comme telle, c'est pas la raison. Les mathématiques, c'est réservé à quelques têtes mathématiques. C'est très difficile de faire des mathématiques quand on n'a pas du tout la bosse et qu'on est plutôt littéraire. C'est très difficile. Tandis que la philosophie, c'est l'intelligence comme telle. Et c'est l'intelligence comme telle qui cherche la vérité. Et quand c'est l'intelligence comme telle qui cherche la vérité, c'est pour ça que le Concile peut dire ça. Le Concile n'a jamais dit tout le temps de faire des mathématiques. Jamais, jamais. Pour devenir intelligent et pour pouvoir quand même comprendre un peu la culture de notre monde d'aujourd'hui. Ça n'a aucun sens scientifique, on n'y comprend rien du tout. Mais c'est pas ça. C'est une recherche à l'égard d'une personne qui nous aime, à l'égard d'une personne qui est notre créateur, à l'égard de la source cachée dont nous dépendons tous. Nous avons tous été créés par Dieu. Et notre âme a été créée par Dieu. Et donc si notre âme a été créée par Dieu, il y a une telle naturalité souterraine, mais radicale, entre le Créateur et notre intelligence. Et cette telle naturalité, nous devons la découvrir. Et toute notre philosophie est faite pour ça. Et toute notre philosophie prend sa finalité là. Découvrir l'existence de cet être premier que nous appelons Dieu. Ça, c'est capital, vous voyez. S'il n'y a pas ça, mais nous passons à côté de toutes les études philosophiques que nous faisons. Et nous le regretterons. J'ai cité cette parole du père Daniel avant sa mort, il dit à moi, je regrette énormément que la compagnie ne m'ait pas fait faire de la philosophie. Parce que j'étais agrégé de lettres, on m'a dit, oh, c'est suffisant. Il dit, maintenant je m'aperçois que c'est pas du tout ça. Et on m'a pas fait faire de la métaphysique. Le Saint-Père lui-même le dit. Je suis pas eu professeur métaphysique. On m'a pas fait vraiment la métaphysique. Alors, il est entré dans Saint Thomas, c'est évident, en entrant dans Saint Thomas, il a fait de la métaphysique, mais pas pour elle-même. Il sent qu'il y a là quelque chose qui aurait pu permettre d'aller plus loin. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire. Il en a fait, oui, à travers toute sa vie, mais un enseignement, c'est encore autre chose. Être autodidacte. C'est très difficile d'être autodidacte ou en métaphysique, vous savez. Il faut le génie d'Aristote. C'est très rare. Et Saint Thomas. Vous pouvez compter sur les doigts. Et il faut soi-même faire cela, vous voyez. Et le cours, normalement, vous aide. Vous voyez, c'est très difficile de découvrir la métaphysique. En lisant des livres, c'est pas suffisant. Parce que c'est quelque chose de tellement profond dans l'intelligence, qu'il y a un éveil de l'intelligence qui ne peut se faire ordinairement que dans un enseignement direct. Les cassettes ne suffisent pas. C'est très curieux. Parce que il faut être en contact avec une intelligence qui pense en acte et qui nous émane. Et comprenez que la métaphysique, on la reprend tout le temps. C'est-à-dire, j'ai suivi ce cours. Ah, c'est la même chose. Ah, pas du tout. Si vous dites ça, ça prend que vous suivez le cours de métaphysique comme vous suivez n'importe quel autre cours de géographie. En géographie, vous pouvez faire ça. Pas en métaphysique. Alors, on perd son temps à dire. Ah tiens, ce cours a été fait. J'ai suivi l'année dernière. Et l'année dernière, j'espère que j'avais progressé. Et donc le cours qu'on vous donne maintenant, vous l'écoutez maintenant, pas en référence à l'année dernière. Et ça, c'est parce que c'est un défaut, ça, vous voyez, ça, c'est le défaut scolaire et primaire. C'est primaire, ça. Or, la métaphysique est fermée à l'esprit primaire, à tout positivisme, complètement fermé. Vous voyez, on essaie chaque fois de redécouvrir la métaphysique. C'est difficile, c'est très difficile, ça c'est sûr, mais on est tous capables de le faire. Alors on reprend ça. Mais c'est le système métaphysique. Pourquoi m'éveiller à cette recherche de l'être premier? L'être premier est une source de tous les autres, dont tous les autres dépendent. C'est ça qui est capital à découvrir. C'est vrai que c'est pas commode de suivre un cours de métaphysique, c'est sûr. C'est pas commode, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois qu'on le suit autrement. Comme toute la philosophie du reste. La philosophie, on essaie de penser. Quand on écoute un cours, oui. C'est pas retenir. C'est pas le souci des examens. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est le souci de que votre intelligence s'éveille à quelque chose dont elle n'est pas éveillée. Elle doit être éveillée à cette recherche du réel, profond, pour aboutir à ce qu'il y a de fondamental et de premier dans la réalité. Donc, c'est du reste, c'est pour ça que je crois que c'est très difficile de s'éveiller à la métaphysique dans un cours qui est uniquement un cours universitaire. Parce que le climat n'y est pas. Mais l'éveil de l'intelligence est quand même quelque chose de sacré. C'est pas profane. Puisque c'est le point de contact de mon intelligence avec celui qui est la source de mon intelligence. Qui est Dieu. Et c'est ce contact-là. Je crois qu'il faut une motion spéciale de Dieu pour entrer en métaphysique. Une motion naturelle du gouvernement de Dieu. Dieu a créé notre intelligence, notre âme spirituelle. Si Dieu a créé mon âme spirituelle, Dieu veut que mon âme, que mon intelligence puisse s'éveiller comme intelligence et puisse redécouvrir par elle-même sa source, son père. Donc là, quelque chose qui est assez unique, dans le sens profond. Et tant qu'on n'a pas découvert ça, on est complètement d'à côté de la plaque. On considère la métaphysique première comme, comme une autre science, grammaire. Je fais du latin, très bien. Mais c'est pas en faisant du latin que vous allez découvrir votre intelligence est faite pour Dieu. Je regrette pour le latin. Mais, tandis que en découvrant ce qui est connaître, vous découvrez que votre intelligence est faite pour Dieu. Et réellement, pas seulement par le nom, mais réellement, vous découvrez qu'il y a un appel, il y a la découverte de la source cachée. Donc, oui, ce cours de philosophie première a donc un caractère très particulier. J'allais dire, toute la philosophie, on a fait vraiment comme une recherche de la vérité. Mais ce cours de métaphysique a quelque chose de très particulier, puisque c'est une réponse à notre manière, à ce que l'Église nous demande. C'est la première réponse, capitale. Et ça, il faut bien le comprendre, et se le dire quand de fait, on se dit, mais pourquoi ça ? C'est tellement lointain de notre monde d'aujourd'hui, personne ne comprendra ça. Mais ne faites pas de la métaphysique pour quelque chose d'utile. À Fribourg, il y avait toujours l'enquête au début de l'année. Un étudiant qui se posait des questions et qui disait, posait toute une série de questions au professeur. Et il y avait toujours cette question de l'utilité de la métaphysique. l'utilité. Si vous prenez utilité comme utile, comme un création d'un outil, c'est utile. Une fourchette, c'est utile. Autrement, on est obligé de prendre avec les doigts, marquer que ça va plus vite. Mais c'est quand même moins correct dans un monde où il y a des conventions. La métaphysique n'est pas de l'ordre utile, mais de l'ordre contemplatif. Or, si on veut être contemplatif, et on le désire tous, c'est évident que c'est Dieu qui nous y introduit. Mais il y a aussi un éveil de l'intelligence. Et cet éveil de l'intelligence se fera par la philosophie première. C'est par là qu'il y aura un éveil vers quelque chose qui me dépasse. Contempler autant que je le peux, être premier. La philosophie première est ordonnée à la contemplation. C'est pour ça qu'on dit philosophie spéculative, c'est-à-dire contemplative. Seconde raison, justement, c'est celle-là. C'est que la philosophie réaliste, dans son cheminement, est conduite à se poser le problème de l'existence de l'être premier. Toute philosophie réaliste repose sur l'expérience. Toutes les expériences que nous avons, le travail, l'amour d'amitié, la solidarité, la coopération au plan politique, toutes ces expériences impliquent expérience. Je peux me poser donc la question, qu'est-ce qu'il y a de commun dans toutes ces expériences pour mieux comprendre leur diversité? Et je vois que ce qu'il y a de commun dans toutes les expériences que je fais, écoutez un cours, l'écoutez vraiment, pas dans l'imaginaire, être présent à ce que on fait. Écouter un cours me fait toucher quelque chose de réel, puisque mon intelligence essaie d'écouter, essaie de comprendre, essaie de s'éveiller. Il y a quelque chose de commun à toute expérience humaine. Quelque chose, on est plus. second, ça a été cuit trois fois. Alors il y a l'amertume des premières cuissons. L'imaginaire, c'est ça. Et il y en a qui vivent uniquement de ça. Ils n'ont plus jamais contact avec ce qui est premier. Un café qui est passé quatre fois, on sait ce que ça représente. Il est de plus en plus noir, mais de moins en moins de goût. Donc, c'est imaginaire. Tu restes dans l'imaginaire. Mais c'est comme ça. Et la plupart des gens aujourd'hui restent dans l'imaginaire. Télévision, cinéma, un livre qu'on lit. On lit un livre et la personne qui est à côté de vous dans le train ne fait aucune attention. Mais on est avec le livre. On est avec sa musique. Aucune attention. On vit dans l'imaginaire. Alors, tout d'un coup, on vous réveille. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Oui, la question fondamentale, c'est vrai, qui est méta-expérience. Je suis d'accord, c'est méta-expérience. C'est pas critique. C'est pas la critique. C'est méta-expérience. Et on se pose la question, ceci est jugement d'existence. C'est pour ça que je dis, c'est pas la critique. Ce qu'on pourrait dire, ah, c'est la critique. Vous avez une première expérience, et puis vous revenez dessus, en vous demandant qu'est-ce qu'il y a de réel dedans. La question est peut-être une question, comme toutes les questions. Toutes les questions, c'est jamais premier. Il y a une première expérience avant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce réel que je touche, que j'atteins. Dans mes rêves, où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce réel que j'atteins quand je pense, qu'est-ce que c'est ? Ce réel que j'atteins quand j'aime, ce réel que j'atteins quand je travaille, qu'est-ce que c'est ? Je me pose la question, vous voyez ? Et je reviens toujours au chemin d'existence. Le contact premier avec quelque chose qui n'est pas mon intelligence, qui est antérieur. Ceci est. C'est très très important de revenir constamment à ce jugement d'existence. C'est là où la métaphysique prend naissance. Pour Heidegger, la métaphysique prend naissance avec l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Pour nous, la métaphysique prend naissance au jugement d'existence qui va engendrer en moi l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Mais avant l'interrogation, il y a un contact avec le réel. Vous voyez, c'est très important parce que ça montre que la métaphysique de Heidegger ne va pas assez loin. Il est encore prisonnier d'une dialectique. Alors la métaphysique d'Heidegger commence par une critique. C'est encore la critique. C'est encore une problématique. C'est pas premier. Il faut aller au-delà. Heidegger a très bien compris, et c'est son mérite, qu'il fallait dépasser le concept d'être. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de concept d'être. Ça, il a très bien compris ça. Et il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu découvrir. Jugement d'existence, ceci est. Il reste dans l'hypothèse, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il ne peut pas répondre. Puisque quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Comme la première question, comme la question fondamentale au point de vue métaphysique, ben, vous restez dans votre pensée. C'est penser l'être. Qu'est-ce que c'est connaître ? C'est penser l'être. Et répond penser l'être. Alors c'est très bien penser l'être, mais l'être, est-ce qu'il n'est pas antérieur à ma pensée ? La réalité n'est-elle pas antérieure à ma pensée ? que rien. Il n'y a que pour Dieu où penser et être est identique. C'était déjà le grand rêve de Parménide. Faut beaucoup aimer Parménide. Le poème de Parménide. Le poème de Parménide, voyez, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est la première fois où l'être apparaît dans une réflexion philosophique. Et pour nous, c'est intéressant parce que pour Heidegger, c'est son cheval de bataille. C'est Parménide. Il passe devant tous les autres. Et Parménide, Heidegger, tout le reste, de la vaseline. Il signifie rien du tout. Tiens, Parménide, Heidegger. C'est très curieux. C'est très, très curieux. Il s'est redécouvert dans Parménide. Et l'interprétation qu'il donne de Parménide, c'est une manière d'entrer dans Heidegger, ça. Pas en première année. Et après, il faut un tout petit peu regarder Heidegger. Parce que c'est quand même un grand bonhomme. Point de vue actuel. Mais c'est intéressant de regarder Parménide pour lui-même et de voir comment Heidegger l'a complètement enveloppé. Vous voyez, c'est très souvent une manière de connaître la pensée d'un auteur, de regarder la manière dont il interprète quelque chose que vous connaissez bien. Vous voyez, quand vous êtes dans un autre monde, ça aide beaucoup ça. Parce que là, en fait, on voit tout de suite comment on interprète. On a quand même une lumière qui nous permet d'interpréter. Donc, la philosophie réaliste, s'appuyant sur l'expérience, nécessairement se pose la question un jour, qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'expérience? Qu'est-ce qu'il y a de caractéristique de l'expérience? Le contact avec le réel. Et ce contact avec le réel, je le saisis dans le jugement d'existence, ceci est. Et ce jugement d'existence, ceci est, j'en ai conscience. Chacun d'entre nous, peut-être qu'on s'était jamais posé la question avant, c'est possible, c'est très possible, je comprends très bien. Mais posez-vous maintenant la question, dans le jugement d'existence, ceci est. C'est votre intelligence qui saisit au-delà des sensations apparentes. Quelque chose que vos sensations n'existent, ne touchent pas. Vos sensations, qu'est-ce qu'elles touchent? Les formes extérieures, la couleur, la lumière, l'odeur, la forme, le poids, tout ça. Quand vous dites ceci, c'est plus vos sensations. C'est votre intelligence. C'est très curieux, ça. C'est très, très curieux. Vous voyez l'éveil de l'intelligence au milieu des sensations, à l'intérieur des sensations. L'intelligence est présente à mes sensations quand mes sensations sont humaines. Elle n'est pas extérieure aux sensations. Ça, c'est imaginatif de dire ça. Ah, l'intelligence est séparée. Oui, l'intelligence est séparée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, comme on verra, d'organes sensibles. Mais elle se sert de mes sens. Et je ne peux jamais poser un acte d'intelligence sans le concours de l'imagination. Donc, je suis sensible. Tout acte d'intelligence se sert de l'imagination dans son exercice. Donc, est lié à l'imagination. Ce qui explique comment c'est quelquefois très difficile de dépasser le sensible pour arriver à toucher quelque chose qui n'est plus sensible, qui est directement saisi par l'intelligence. Il faut tout le temps revenir à cela. Il ne faut pas le faire tout le temps, hein, comme exercice, parce que... Mais chaque fois que vous faites un peu de philosophie, repensez le jugement d'existence. Il faut le repenser. Hein. Pas simplement le lire. On peut très bien lire indéfiniment et lire tous les bouquins. et n'a rien compris au point de vue philosophique. En fait, c'est l'exercice de l'extérieur. Et l'exercice fondamental, c'est celui-là. C'est de découvrir ce dépassement de l'intelligence par rapport au sensible, à l'imaginaire. On voit tout de suite, dans un examen, si le candidat a découvert le domaine de l'intelligence et n'est pas resté dans le sensible. Les répétitions, tout ce qu'on répète, tout ce qu'on reprend, tout ce que, c'est du sensible. Quand vous regardez ce que vous avez écrit il y a un an, et que vous dites maintenant, mais c'est une répétition, ça reste sensible. On peut très bien faire ça sans aucune intelligence, uniquement imaginaire, représentation, c'est la représentation. L'intelligence saisit la signification. Alors elle touche quelque chose qui est au-delà du sensible. Donc vous voyez, les deux grandes raisons, il y en a beaucoup d'autres, mais les deux grandes raisons pour lesquelles nous faisons la philosophie première, en tant que croyants, pour répondre à l'appel de l'Église. Au plan philosophique, pour que ma philosophie réaliste jusqu'au bout. Alors, je dirais, troisième raison, pour moi personnellement, je vous le disais hier, la philosophie affine notre psychologie, elle affine nos sensations, elle affine notre affectivité. C'est une purification active de tout nous-mêmes, de notre propre personnalité. Je crois que on peut avoir une vraie personnalité au point de vue de l'intelligence, et donc au point de vue humain, que si on a un certain sens philosophique, un certain sens, on comprend qu'il y a une sagesse. C'est pour ça qu'elle est sagesse. Si l'intelligence, si la philosophie est sagesse, elle est pour l'homme sa dimension de personne humaine faite pour comprendre cette capacité de dépassement, contact avec le réel. Vous voyez, dans les sensations que vous assimilez, c'est votre avoir. Votre vie de l'intelligence n'est plus de l'avoir. Hier, je réfléchis là-dessus. C'est une expérience expérience interne n'est pas dernière. L'expérience dernière, ultime, c'est l'expérience avec nos sens externes. Je touche. Et le toucher est l'expérience externe la plus fondamentale. C'est pas la vue, c'est le toucher. Je touche cette table. Et quand je dis je touche cette table, est impliqué ceci est. Est impliqué je suis. Ceci est et je suis. Je suis touchant cette table. On n'exprime pas, mais au fond, c'est je suis. Et il y a ceci est. Alors, le premier problème, voyez, au plan philosophique, au plan métaphysique, qui nous fait entrer dans la métaphysique, c'est la différence entre ceci est et je suis. Et on se pose la question, pourquoi pas commencer par je suis ? Ce serait tellement plus moderne. Si vous commencez par je suis, mais vous êtes tout à fait avec les modernes, vous donnez la main à tous les modernes. Et vous dites, non, je ne commence pas par je suis, je commence par ceci. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il ne faut pas faire ça a priori. Non. C'est pour être thomiste que je commence par ceci. Ce n'est pas une raison philosophique. Pour être thomiste, ce n'est pas une raison philosophique. La raison philosophique, c'est de comprendre que mon intelligence ne peut être parfaitement elle-même que quand elle dit ceci. Et pas quand elle dit je